Parmi les autres, il y a nul autre que Serge Varadet. Comment ça va, Serge?
Très, 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 très bien, mon cher Denis. Ça
J'aime
va bien, ça
ça avoir de la présence en studio parce que tantôt, quand je présentais les infos, je voyais tes réactions. Ça fait du. Non, faut dire que la nouvelle sur Trump, ça nous fait réagir tout le monde.
Fait le beau, oui,
parce qu'on se dit, mais non, ça n'a pas de bon sens, là, ça n'arrête pas. Là, mais bon.
Mais depuis qu'il est en politique, il fait une déclaration chaque jour, presque.
Ouais.
Mais mensongère ou énorme. Il fait la front page, il ferait la une des journaux, la une des téléjournaux,
ben oui.
Et il continue, ça marche.
Ben ça, c'est le problème de ce qu'on appelle l'objectivité, qui n'existe pas en information, mais quand on accorde le même temps d'antenne à quelqu'un qui ment et à quelqu'un qui ne ment pas, on donne autant de crédibilité au mensonge. Je le dis souvent parce que puis je veux quand même être transparent avec les gens qui nous écoutent. Je ne suis pas une personne objective, je suis une personne rigoureuse. Alors, si c'est un mensonge, clairement, on met ça de côté à cette émission-ci. C'est la politique, en fait, qu'on devrait avoir dans toutes les stations de radio.
Ouais.
C'était ça qu'on avait à Radio-Canada aussi. Et maintenant qu'on a Canal M. Alors, on va laisser ça de côté. On va parler d'un sujet intéressant parce que ça fait la une présentement. On parle de plus en plus de l'électrification des transports. Or, c'est pas nouveau, ce sujet-là, Serge.
Absolument pas. Alors, c'est des articles, mes deux articles, comme je vous parle ce matin, c'est de Marc Tison. Le premier, ça a été mis à jour le 17 juillet. Ben, je pense qu'il en avait parlé avant, un peu plus, peut-être quelques mois avant. Alors, on dit, certaines prouesses technologiques ont été réalisées au mauvais moment. Et cet été, la Presse Plus relate quelques-uns de ces malheureux exploits dans le secteur du transport. Malheureux exploits parce qu'ils sont arrivés trop tôt.
Ouais.
Alors, on les a mis de côté. Un petit voyage dans le temps, donc. Et alors, je vous parle de ça. En 1899, c'est un fabricant de taxis électriques qui était le plus important constructeur automobile en Amérique du Nord.
Ah bon?
Oui, mais l'essence allait bientôt faire explosion. Alors, à New York, en 1899... vous pouviez emprunter un taxi électrique qui, à la défrisante vitesse, tenez-vous bien, de 15 000 à l'heure, vous amenait à destination sans hennissement ou pétarade, ni odeur de crottin ou d'essence mal brûlée.
Oui, parce que là, il faut expliquer aux gens, hein, parce que l'odeur de crottin... Bon, c'est... on rit toujours de ces blagues-là. Qu'est-ce que tu veux, Serge? Ça fait partie de notre réalité.
Oui, oui, oui,
c'est
oui.
Parce qu'il y avait des voitures tirées par les chevaux, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, ben, oui, ben oui. Non, parce que les pauvres bêtes, là, tu sais, ils donnent du... Comment est-ce qu'on appelle ça, le gaz? C'est
du méthane.
Du méthane. Ben oui, mais laissez-les tranquilles. Ils donnent du méthane depuis le début de l'humanité. Puis,
c'est pas ça qui contribue au gaz à effet de serre. En fait, oui, mais ça, si c'était que ça, on n'aurait pas de problème.
Ouais. Alors, le fabricant de ce véhicule était alors le plus important constructeur automobile en Amérique, et son origine remonte à ce qui est sans doute la première voiture électrique à trouver une application commerciale, l'électro-bat. Alors, ça fait un peu... c'est la Batmobile, hein, c'est ça, ouais. C'est le nom, l'électro-bat. Je sais pas s'ils sont inspirés quand ils ont fait Superman
de ce nom-là. Ça va être Robin.
Oui, oui. L'aventure ne commence pas à Détroit, la capitale de l'automobile, mais à Philadelphie. L'ingénieur Henry G. Morris et le chimiste Pedro G. Salom y ont uni leurs compétences pour concevoir, sur la base d'une charrette de livraison, un véhicule électrique de 1930 kg. La batterie pesait à elle seule 725 kg.
J'imagine qu'on va faire changer la batterie.
Oui, vous imaginez, hein? Ça prenait un treuil pour changer la batterie.
OK, j'arrête de rire. J'enlève mon micro. Vas-y, Serge.
Alors, à peine leur invention brevetée, Morris et Salom ont construit une série de trois prototypes de tailles différentes. Le plus grand des trois présente une apparence rutilante avec une finition contrastée en rouge et noir, sans qu'aucune machinerie ne soit visible, à l'exception du levier de direction. Décrit le mensuel d'avant-garde technologique The Horseless Age, l'ère sans cheval, ou l'ère post-équine, dans son numéro de décembre 1895. L'électro-bat ressemble vaguement à un crapaud, mais le suffixe « bat » ne réfère ni à batracien ni à batterie, mais au mot grec « bataine », B-A-T-E-I-N, signifiant « aller ». Aha. Au sur-roue, il accueille le conducteur et un passager sur sa banquette frontale. Il est muni d'une traction avant et d'un train arrière directionnel. Son poids a été abaissé à 700 kg. Le véhicule peut atteindre 32 km/h avec une autonomie de 40 km, soutient la publication. Quand même impressionnant, 40 km d'autonomie. Faut te contenir, à l'époque, il n'y a pas d'autoroute, rien. C'était pour les villes, les taxis, alors... On peut faire beaucoup de chemin.
Oui, puis à l'époque, Montréal, là, c'était pas si grand que
ça. Non,
ben
c'est ça, oui. Ouais. Et c'est sur cette base que les deux inventeurs vont réaliser une autre première mondiale, 115 ans avant Théo Taxi, une société de voitures taxi entièrement électrique. Dans le numéro de janvier 1896 de Horseless Age, Morris et Salem ont annoncé leur intention de fonder une entreprise pour la construction de leurs véhicules électriques, l'Electric Carriage and Wagon Company. En l'absence de stations de recharge, il serait irréaliste de viser les marchés des voitures particulières. Ils veulent d'abord s'adresser aux services de voituriers et aux parcs de véhicules de livraison qui peuvent recharger leurs batteries au dépôt durant la nuit. Mmh. Ce qui était pratique. En 1895, l'automobile électrique présente encore de sérieux avantages sur ses concurrents. Elle est plus rapide que le véhicule à essence, offre une plus grande autonomie que la voiture à vapeur et démarre instantanément sans qu'on ait à s'échiner avec une manivelle. On voyait ça dans les films anciennement, hein, quand on crinquait la voiture. Là. Elle est silencieuse et ne produit aucune émanation, au contraire du cheval et du moteur à explosion. Alors, le 27 mars 1897, Morris et Salem lancent dans Manhattan un parc d'une douzaine de taxis électriques. Les deux passagers sont assis à l'avant et le conducteur à l'arrière, à la manière des fiacres londoniens. Ce sont sans doute les premiers taxis motorisés de l'histoire. La London Electrical Cab Company mettra ses premiers taxis électriques en service en août 1897 et Paris même va tester son premier fiacre électrique la même année. Et quatre mois plus tard, Morris et Salem écrivent The Horseless Age pour faire état des premiers mois d'activité. Mmh. Entre le 27 mars et le 1er août, leurs taxis ont parcouru 23 270 km. Soit une moyenne de 2370 km pour les 10 taxis mis en service. Ils ont franchi en moyenne 18 km par jour et ont transporté un total de 4765 clients. Malheureusement, en panne de liquidité, l'entreprise est cependant incapable d'élargir son parc. Alors, l'article a néanmoins attiré l'attention d'un dynamique homme d'affaires new-yorkais, Isaac L. Rice. Rice rachète Electric Carriage and Wagon Company à ses fondateurs, qui disparaissent carrément de l'histoire, et ils fondent en septembre 1897 l'Electric Vehicle Company, EVC. À la demande de Rice, l'Electric Storage Battery, où ils détiennent des intérêts, met au point un système de batteries permutables qui peuvent être rechargées indépendamment et installées à bord des véhicules. Alors, un vaste atelier est construit dans l'édifice d'une patinoire désaffectée avec des stalles où les batteries sont glissées sous les voitures. Et au début 1899, une centaine de taxis sont en service, nous informe la revue Scientific American dans sa publication du 25 mars 1899. Leur batterie leur procure une autonomie de 40 à 48 km à la vitesse normale de 13 km/h. Donc, ça, on pouvait faire un peu de tourisme, peut-être, en se promenant en taxi. Et évidemment, on prévoit... ils entrevoient déjà, ils voient grand, hein, une armada de 12 000 taxis sillonnant les rues des principales villes américaines et pourquoi pas européennes. Alors, rapidement, l'EVC y met sur pied des services de taxis électriques à Chicago, Boston, Newport, Philadelphie, Washington. Ça a quand même rayonné, ça s'est quand même étendu. Un bureau est même ouvert à Paris pour étudier le marché américain. Et la seule entreprise qui est en mesure d'entreprendre une telle production, ben c'est le plus grand fabricant de vélos en Amérique, la Pope Manufacturing à Hartford. Et son président, Alfred A. Pope, vient justement de se lancer dans la construction d'automobiles électriques sous la marque Columbia. Et il s'associe avec l'EVC pour former la Columbia and Electric Vehicle. Elle reçoit une première commande de 2000 taxis et bientôt de 1600 autres. Ça a quand même... Ça marchait bien. Et à la fin de 1899, la Columbia est brièvement le plus important constructeur automobile aux États-Unis. Alors, le service de véhicules électriques lancé par Maurice Salom est devenu la plus grande entreprise automobile de l'époque, et à son apogée, l'Electric Vehicle Company était à la fois le plus grand constructeur de véhicules et le plus grand propriétaire et exploitant de véhicules à moteur aux États-Unis.
Oui, et l'avènement de l'essence, des gaz fossilisés, mm-hmm. a fait en sorte que, on est passé à autre chose. Mm-hmm. On va revenir avec toi tout à l'heure après la petite pause qu'on va faire. Alors nous, ça conclut notre première demi-heure. Dans la deuxième demi-heure, nous allons continuer la chronique avec Serge Bradette, et Alex Saraf sera avec nous pour parler de l'après-pandémie et ses impacts sur notre santé mentale à tous et à tous et à toutes.
Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Et je suis toujours en compagnie de notre chroniqueur Serge Bradette. Serge, on parlait des autos, les premiers véhicules électriques. Mm-hmm. Hein, il y avait une flotte de taxis à mm-hmm. New York avant la pause. Mm-hmm. Le précurseur, j'imagine, de Théo Taxi.
Oui.
Et cela dit, ces véhicules coûtaient... C'était cher, les véhicules électriques à l'époque?
Oui, bien c'est ça. C'est qu'une des choses qui a mis un terme à la voiture électrique, c'est évidemment l'arrivée de l'essence. Mm-hmm. Et le coût de la voiture électrique, voyez-vous, on parle un petit cabriolet électrique coûtait 1750, on est en 1900 là, quelque chose, et le piéton peut se procurer une voiture à essence pour 650 $. Et l'autre, c'est plus que le double.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça, ça aide dans quand le porte-monnaie.
Je ne sais pas si ces proportions-là sont restées. Je me posais la question en lisant l'article ce matin. Je me disais, je ne sais pas si les proportions sont restées les mêmes maintenant.
La voiture électrique est plus chère.
C'est encore beaucoup plus cher.
Mais même si c'est des subventions, là, ça reste quand même coûteux. Là, ouais.
Avec les personnes qui nous écoutent présentement, vous avez compris que je n'ai pas d'auto. Une autre voiture qui a fait l'histoire, le véhicule à vapeur.
Oui. C'était, alors, dans la presse plus du mardi 1er août, donc hier. Alors, c'est en 1924, le plus important constructeur de voitures à vapeur en Amérique, Stanley Motor Carriage, a rendu son dernier souffle. Le moteur à explosion s'était définitivement imposé. Pourtant, cette même année, Double Car a lancé ce qui fut sans doute la voiture à vapeur la plus perfectionnée de l'histoire, comme on va le voir, et peut-être même la meilleure voiture de son temps. Silencieuse comme un souffle sur la route, plus rapide que les Lincoln, Cadillac ou autres Packard, une garantie de 160 000 km sur le moteur, ce qui n'est pas rien.
Ouais.
Au milieu des années 1920, la Double AEE était sans doute la meilleure et la plus raffinée des voitures américaines de son époque. Or, elle fonctionnait à la vapeur. La qualifier de locomotive sous pneus serait un affront. De l'extérieur, rien ne la distinguait fondamentalement de ses concurrentes. Et dans son ouvrage « Double Steam Cars », N.G. Walton raconte que le propriétaire d'une Double modèle E a parcouru, tenez-vous bien, 300 000 km en 20 ans, durant lesquels le seul entretien a consisté en 3 changements de train de pneus, 2 nouvelles batteries et une pastille d'acier pour boucher un trou sur la chaudière.
Et c'est une belle voiture, je vois la
photo. Oui, oui, oui.
C'est très beau, les gens ont la chance d'aller voir sur la presse plus. Là. Mm-hmm.
Ouais. Presque une limousine. Alors, Abner Double était né en 1890 au sein d'une famille aussi aisée que friande de technologie. Son grand-père avait fondé une fabrique d'outils pour les chercheurs d'or de Californie que son père avait élargi à la fabrication de roues hydrauliques. Le jeune Abner fréquentait encore l'école secondaire quand, avec son jeune frère, John, il a remonté une vieille voiture à vapeur dans laquelle ils ont installé un moteur de leur conception. Il était bricoleur. Admis en 1910 au prestigieux Massachusetts Institute of Technology, le EMT, il s'est rapidement désintéressé de ses études pour ouvrir un petit atelier expérimental dans une ville voisine où il s'est attaqué à la conception d'une voiture à vapeur selon ses vœux. Assisté encore une fois par son jeune frère John, lui-même un brillant technicien, Abner Double a assemblé un premier véhicule, puis un second. Ce modèle B était à peine un prototype, mais ses performances lui ont déjà valu des commentaires élogieux dans la presse spécialisée. Il passait, ça c'est assez incroyable, il passait de 0 à 100 km/h en 15 secondes.
Wow.
Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui, en 15 secondes?
Oui, probablement. Ça, c'est une bonne question.
Probablement, oui, sur certaines voitures, oui.
Il y a des gens qui le font pareil, même si c'est pas censé, ouais. puis causent bien des accidents. Mais ça, c'est un autre débat. Ouais.
Alors, Abner Doble a entrepris à son volant une longue tournée qui l'a menée jusqu'à Détroit, où il s'est mis en quête d'investisseurs, Détroit étant la ville de l'automobile à l'époque. Moins aujourd'hui, je pense, il y a beaucoup d'industries qui ont fermé à Détroit. Hein.
Ça ne va pas très bien
non,
à Détroit.
Pas tellement, non, ouais. C'est dans la capitale de la voiture à essence que les deux frères mettent au point en 1916 leur modèle C, sous la marque Double Détroit. Le prototype est présenté à l'important salon automobile de New York en janvier 1917 et les articles qui évoquent ses performances suscitent plus de 5000 commandes assorties de dépôts en provenance d'un peu partout aux États-Unis. Donc, ça marchait. Hein? En septembre 1917, un bail est signé à Détroit pour la location d'une usine de 52 000 pieds carrés. L'usine doit être lancée au printemps suivant, mais l'entreprise s'effondre soudainement alors qu'à peine une dizaine de voitures ont été assemblées. Abner Doble prétextera la pénurie d'acier provoquée par la Première Guerre mondiale, mais les problèmes techniques de la voiture et les mésententes entre les deux frères sur la paternité de ces innovations sont plus vraisemblablement en cause.
Les chicanes de famille.
Oui. Il retourne penaud en Californie, où John meurt d'un cancer en 1921, à peine âgé de 28 ans.
Carmel.
Oui. Et cinq mois plus tard, Abner et ses autres frères, William et Warren, fonde la Double Steam Motors et ouvre bientôt une usine dans la région de San Francisco. En deux ans, la fratrie et ses employés construisent un nouveau prototype, le modèle D, puis une version améliorée, le formidable modèle E.
Mm.
Son fonctionnement au modèle E.
Ouais.
Alors, l'article vient de la section affaires de la presse et non de la section automobile, donc ils ne se sont pas étendus sur toute la technologie, mais on retient simplement que la vapeur produite dans une chaudière est amenée sous pression dans un moteur où elle anime des pistons.
Oui, ça a du sens.
Ouais.
Ah oui, il y a même un plan. Hein,
Oui.
Ben oui, je vois ça.
C'est assez imposant, hein? Ça fait tout le dessus de la voiture.
Hein. Ça doit être là, mais ça ne polluait pas, j'imagine. Hein?
Ben c'est ça.
Ouais.
Exactement, hein. Les frères Doble ont remplacé le problématique moteur à deux cylindres des modèles précédents par un nouveau modèle à quatre cylindres dans lequel la vapeur exerçait sa pression dans les deux sens, tant à l'allier qu'au retour du piston. Ingénieux.
Mm-hmm.
Nul besoin de boîte de vitesse ou de pédale d'embrayage. Ça veut-tu dire que la voiture était comme une voiture pas manuelle, là, voiture...
Standard,
ouais. Ça devrait, j'imagine.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse ou pédale d'embrayage. La puissance de la vapeur sous pression se libérait instantanément à l'aide d'un petit volant placé au centre du volant de direction. Une version allégée du véhicule a atteint la vitesse, attention, 120 km en 10 secondes cette fois-ci.
Ouais.
Une accélération ahurissante à l'époque et pratiquement sans vibration de surcroît. On se demande pourquoi c'est pas resté sur le marché. L'allumage a rarement été mieux nommé que pour une voiture à vapeur. Imaginez, il fallait craquer une allumette pour faire démarrer les automobiles à vapeur Stanley. Ça, c'est... Je sais pas... Où est-ce qu'ils allaient craquer la lumière devant le moteur ou pas à l'intérieur de l'auto?
Quand il fait moins 20 dehors, là.
Ben, c'est ça, oui. Et le problème, c'est que des dizaines de minutes pouvaient s'écouler avant que la pression soit suffisante pour faire bouger le véhicule.
Ah, ouais.
Donc, un petit contretemps, là, si
ouais,
on était pressé.
Fallait peut-être brancher. Peut-être que de nos jours, on brancherait l'auto.
Oui, probablement, oui. Ouais. Pour sa part, la voiture de Double s'élançait moins de 40 secondes après que la clé de contact était activée. Avait activé l'allumeur électrique du brûleur. Alors, c'était une clé comme aujourd'hui, on allumait. Ça part au-dessus, mais dans ce temps-là, c'était 40 secondes avant de partir. Le combustible du brûleur, habituellement du kérosène, se consumait plus complètement que le carburant d'un moteur à explosion, entraînant moins d'émissions polluantes.
Mmh.
Avec une carrosserie construite sur mesure, le poids de la bête avoisinait l'éléphantesque total de 5500 livres.
Ouf, ouais.
Ouais, 2495 kilos.
Ouais.
La Double E pouvait néanmoins tenir une consommation moyenne de 19 litres par 100 km, une excellente performance pour une voiture de ce poids et de cette époque. Grâce à un ingénieux système de condensateur, la voiture pouvait parcourir 1500 km sur sa réserve de 4 litres d'eau. C'est quand même quelque chose, là.
C'est tellement drôle. Mon père, de son vivant, me parlait toujours de ses autos à vapeur. Puis je comprends pas qu'on n'a pas de continuer ça. Ouais. Ça nous aurait coûté tellement moins cher. Là, je sais pas, il y a beaucoup d'autres impondérables là-dedans.
Oui, oui, oui.
Mais quand même, hein, c'est intéressant parce que lui se rappelait de ça. Il disait son âme, là, il est mort depuis longtemps.
Ouais,
mais
ouais, ouais. Moi, mes grands-parents parlaient un peu de ça.
Ouais.
Ils avaient entendu parler de ça.
J'avais toujours l'impression que mon père est en train de souscrire à des thèses complotistes. Mais non, c'est vrai.
Abner Doble était un incurable perfectionniste, hélas. Chaque nouvelle voiture assemblée apportait des améliorations sur la précédente, ce qui ne favorise pas tellement la construction à ce moment-là en Syrie. Malheureusement, ce perfectionnisme ne s'entendait pas aux questions financières, et en 1924, de douteuses ventes d'actions ont attiré l'attention des autorités, et Abner Doble a été blanchi pour des détails techniques, mais comme ça arrive souvent, la réputation de son entreprise est restée souillée par ces allégations-là. Alors, pratiquement fabriquée à la main par des orfèvres de la mécanique, une double E carrossée pouvait atteindre le prix astronomique, tenez-vous bien, de 18 000 $
Ouf, ouais, à cette époque-là, c'était beaucoup d'argent, ça.
Ouais, 18 000 $ tu vas acheter un édifice en hauteur, là. Un tour à bureau.
Ah, mon Dieu, les temps changent.
Boudé par les investisseurs méfiants et les acheteurs impécunieux, frappé par la Grande Dépression, la Double Steam Motors a définitivement fermé ses portières en 1931. La Grande Dépression a joué beaucoup hein, dans ses, pour l'évolution. Ça a stoppé beaucoup, beaucoup de choses et qui ont malheureusement pas repris ou qui ont repris à la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, ben, les énergies étaient concentrées pour approvisionner la guerre. On estime qu'une cinquantaine de double E avaient été construites, dont plusieurs roulent encore de nos jours. Hey, ça, j'aimerais ça faire un tour en double E, moi.
Ouais.
Abner Doble s'est éteint en 1961. Jusqu'à son dernier souffle, dit-on, il a soutenu que la voiture à vapeur était aussi performante, sinon meilleure que la voiture à essence. Et moi, j'avoue, après avoir lu cet article-là, que je suis porté à le croire.
Ouais. Ah, la vapeur, c'est quand même une force. Hein, dans la nature, on le voit, les geysers et tout. Ah, Serge, ça a été vraiment plaisant de t'avoir à l'émission aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Puis j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter.
Oui, ça se voit. Ça s'entend. Oui.
On se revoit la semaine prochaine.
Absolument.
Puis nous, on va dans la musique.